plus que de parler du parler en langue en lui-même, je préfère parler ce matin des langues nouvelles. Parce qu'il ne faut pas oublier ceci, les langues nouvelles sont avant tout des langues. Et permettez-moi même de rajouter ceci, des langues d'hommes. Et pour comprendre donc ce que sont les langues nouvelles, il nous faut comprendre pourquoi elles tiennent cette place, en quoi elles sont si importantes dans l'enseignement du Seigneur. Pour nous-mêmes, nous considérons que nous sommes les héritiers des pionniers, des pères du pentecôtisme moderne, mais nous considérons surtout que nous sommes les héritiers de l'enseignement des apôtres. Et à ce titre, nous croyons toujours dans la promesse de Jésus, ils parleront dans des langues nouvelles. Alléluia. Alors je vous invite avec moi à lire dans l'évangile de Marc au chapitre 16 à partir du verset 15. Marc 16, verset 15, nous sommes tout à la fin de cet évangile et ce sont les dernières paroles de Jésus avant qu'il ne retourne vers son Père. Paroles qu'il adresse à ses disciples, ses apôtres, mais paroles qui sont aussi pour notre génération. Puis Jésus leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et les disciples s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par les miracles qu'il accompagnait. Amen. Je me pose quand même cette question. Quelle drôle de chose, quelle drôle d'idée de la part du Seigneur de vouloir nous faire parler dans des langues que ni vous ni moi ne comprenons ni ne parlons. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question sous cet angle-là, mais je vous l'adresse quand même. Pourquoi donc Jésus a-t-il voulu que nous parlions dans des langues nouvelles? Pourquoi a-t-il voulu que la prédication de ceux qui croient en lui soit accompagnée de ce signe quand même assez mystérieux des langues nouvelles? Aujourd'hui, en abordant ce thème, je vais laisser de côté, en tout cas la semaine prochaine, les questions pratiques du parler en langue, dans le culte du parler en langue, dans notre vie quotidienne, courante, pour m'intéresser à cette question de fond, et essayer de comprendre le choix de Dieu, quelque peu surprenant, concernant ces langues nouvelles. D'après ce texte de Marc 16, les langues nouvelles font partie d'un ensemble de choses qui accompagnent la prédication des disciples de Jésus-Christ. Il y a, par exemple, chasser les démons, il y a saisir des serpents, boire des breuvages mortels et guérir les malades en imposant les mains. Et puis, il y a donc aussi parler des langues nouvelles. Ces choses, à vrai dire, sont plus que de simples choses. Le Seigneur dit qu'elles sont des signes, autrement traduit encore par « miracle ». Un signe, un miracle que Dieu accomplit pour authentifier la parole, la prédication de ses serviteurs. Un miracle par lequel Dieu signe, c'est aussi la portée de ce mot, signe sa présence. Autrement dit, les langues nouvelles sont une signature de Dieu. Sont une signature de Dieu sur le témoignage que rendent à son nom et à sa parole ceux qui ont cru à lui. Les langues nouvelles sont une signature de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut donc signifier? Qu'est-ce que Dieu veut donc signer, plus exactement, à travers ces langues nouvelles? Or, le choix de Dieu concernant les langues nouvelles n'est pas anodin, je l'ai dit. Car les langues nouvelles sont avant toute autre chose des langues et des langues d'hommes. Et on ne peut comprendre le signe des langues nouvelles si d'abord on ne comprend pas la portée historique, la portée théologique des langues humaines. Les langues d'hommes sont un signe de Dieu, car c'est Dieu qui a donné les langues aux hommes. Et bien avant la Pentecôte et jusque dans l'éternité, les langues d'hommes demeure un signe de Dieu. Et on ne peut comprendre le signe des langues nouvelles que si on ne comprend le message que Dieu adresse à l'humanité à travers les langages que nous parlons. Et la première chose qu'il nous faut dire, c'est que les langues d'hommes ont été un signe plutôt négatif au début, puisqu'elles ont été un signe de confusion et de séparation. Je vous emmène avec moi à l'aube de l'humanité, plus exactement quelque temps après le déluge. Et les hommes sont encore porteurs de ce souvenir, devrais-je dire, de ce trauma, parce que le déluge a forcément marqué toute l'humanité. Et les descendants de Noé qui sont là, la Bible nous dit qu'ils avaient une seule langue. Et ils avaient les mêmes mots, Genèse 11:1. Et face à ce traumatisme du déluge, ils décident ensemble de se regrouper pour bâtir une ville. Et pour bâtir au centre de cette ville une tour qui s'élèverait jusqu'à toucher les cieux. Mais ce projet, ce n'est pas simplement un projet de mieux vivre ensemble. Ce projet s'adresse comme un défi à l'égard de Dieu. C'est ce que le texte nous dit, Genèse 11, donc bâtissons-nous une ville, on dit les hommes, et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Les hommes ont défié Dieu, et Dieu a donc regardé ce qu'il se passe parmi eux. Il a observé le cœur des hommes, il a entendu les paroles des hommes, et le Seigneur a dit ensuite ceci, voici, ils forment un peuple, ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Jusque-là, ils parlaient tous la même langue. Ils parlaient tous les mêmes mots. Ils se comprenaient. Ils pouvaient donc se regrouper ensemble et bâtir des projets et réaliser des projets ensemble. Mais ce n'étaient pas des projets de bénédiction, c'était des projets de défi à l'égard de Dieu. Et Dieu est intervenu. Dieu a jugé leur cœur et il a confondu leur langue afin que ce projet échoue. Et les hommes ont commencé à parler des langues, différentes langues. Et du coup, ils ne pouvaient plus se comprendre les uns les autres. Et comme ils ne pouvaient plus se comprendre les uns les autres, qu'il y avait cette confusion, ils se sont dispersés parce qu'ils n'arrivaient plus à travailler ensemble. Mon beau-père est originaire de Sicile. Et il a longtemps travaillé comme chef de chantier. Et les choses sont toujours les mêmes sur un chantier. Lui, il parlait son français imbibé d'accent sicilien. Mais il avait avec lui des Espagnols, il avait avec lui des Portugais, des Marocains, des Polonais. Il fallait arriver à faire vivre tout ce petit monde ensemble et arriver à les faire travailler aussi. Et ce n'était pas simple. Il fallait arriver à transmettre les ordres, faire réaliser ce que l'architecte voulait qu'on fasse. Alors évidemment, ils en arrivaient à créer une espèce de galimatia, d'espéranto du BTP, chacun essayant de s'y retrouver là-dedans, mais ce n'était certainement pas simple. Mais sur le chantier de Babel, ça les a amenés à se disperser. Parce que, évidemment, quand on commence à chacun parler dans sa langue, les choses ne sont pas évidentes. Combien parlent au milieu de nous une langue maternelle qui n'est pas le français ? Y a-t-il des gens qui parlent créole ? Créole antillais, créole réunionnais, et autres créoles ? Y en a qui parlent brésilien, portugais, espagnol ? Y en a-t-il qui parlent des langues d'Afrique ? des langues d'Asie. Commençons à parler dans nos langues. Allez, parlons dans nos langues. Disons, oui, le Seigneur est bon. Ah oui. Et si, ça pourrait quand même poser certaines difficultés, n'est-ce pas? Heureusement que nous avons cette langue commune, le français, puisque nous habitons en France, mais si nous devions conserver chacun notre langue, ça ne serait pas facile, malgré tout, de vivre ensemble la vie d'Église. Et donc, les langues sont apparues initialement comme un signe de jugement à l'égard des hommes vaniteux. Les langues ont été un jugement de Dieu. Elles ont été un signe de séparation, un signe de dispersion, et rien de très positif là-dedans. Toutefois, avec la Pentecôte, on est donc bien des générations après, la manifestation du signe des langues nouvelles a fait évoluer les langues. Et elle, avec ce nouveau temps, ce qui était un signe de dispersion, un signe de confusion, est devenu un signe de rassemblement et un signe de distinction. L'apôtre Paul écrit ce verset un peu mystérieux dans 1 Corinthiens 14, 22, un verset qui a laissé place à de nombreuses interprétations. Paul écrit, par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Alors, on va essayer de réfléchir un peu autour de ce verset quelques instants, mais ce que je voudrais dire d'abord concernant ces langues dans le Nouveau Testament à partir de la Pentecôte, je me suis arrêté sur cette expression « langue nouvelle », parce que trop souvent nous parlons de parler en langue, mais Jésus lui parle des langues nouvelles. Il faut s'arrêter sur l'adjectif « nouvelle ». Il est important, parce que Jésus est venu amener quelque chose de nouveau. Une nouvelle alliance, une nouvelle relation avec Dieu. Jésus renouvelle toutes choses et il a renouvelé le signe des langues. Ce mot de nouvelle ne veut pas dire que nous allons parler des langues que nous ne connaissions pas, qui étaient inconnues. C'est beaucoup plus profond que ça. En disant que nous allons parler des langues nouvelles parce que nous croyons en lui et nous sommes remplis du Saint-Esprit, Jésus est en train de signifier un changement dans la valeur des langues par rapport au temps de Babel. Avec la Pentecôte, les langues nouvelles ne sont plus un signe de jugement, un signe de confusion, mais premièrement, les langues deviennent un signe de rassemblement. Les langues nouvelles témoignent du rassemblement que Dieu est en train d'opérer d'entre les gens de toutes les nations, de tous ceux qui ont cru en lui, de toute nation, de toute ethnie, de toute langue, il est en train de les prendre pour former un seul corps, l'Église de Jésus-Christ. Et comme Paul l'écrivait, nous l'avons vu, les langues sont aussi un signe de distinction. Elles ne sont pas un signe pour les croyants, mais pour les non-croyants. Parce que le signe des langues, qui a été un signe de jugement et de confusion, l'Église est en train de témoigner l'inverse. Les signes des langues rassemblent ceux qui ont cru. Et du coup, ceux qui n'ont pas cru deviennent comme jugés par ce signe des langues. Ils ne parlent pas ces langues nouvelles. Et les langues sont toujours un signe de confusion pour eux. Nous allons approfondir cette idée. Ce qu'on voit, c'est que les langues nouvelles sont donc associés intimement à l'Église dès son origine. C'est au jour de Pentecôte que l'Église a été manifestée publiquement. Et au jour de Pentecôte, les langues nouvelles ont été exprimées par les apôtres remplis du Saint-Esprit. Elles sont liées, l'Église et le signe des langues sont liés l'un à l'autre. Et nous savons que même si les langues doivent cesser, ce signe des langues nouvelles cessera dans le ciel. Il est encore question de langues. Lorsque dans le livre de l'Apocalypse, il est dit au chapitre 7 qu'il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Il criait d'une voix forte en disant « Le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Que sont ces langues? Je ne sais pas si dans le ciel nous parlerons une seule langue. Quelle sera cette langue? Pour moi, s'il n'y a qu'une seule langue, de toute façon, elle sera beaucoup plus belle que toutes les langues que nous pouvons parler, parce que ce qui est céleste. Peut-être continuerons-nous à parler notre langue. Mais il y aura quelque chose peut-être de miraculeux qui se fera. Nous arriverons à nous comprendre au-delà de nos différences d'expression. Je ne sais pas comment les choses se passeront. Que cela reste mystérieux et divin, ça me convient tout à fait. Mais nous voyons que même dans le ciel, il est question d'hommes et de femmes, de tout peuple et de toute langue. Les langues demeurent jusque dans l'éternité. Ce que je veux dire, c'est que Dieu a inversé le signe des langues. Au début, un signe de jugement, un signe de confusion, un signe de séparation à la Pentecôte. La langue devient un signe de rassemblement, un signe de distinction. C'est un signe qui accompagne l'Église de Jésus-Christ. Ce qui divisait devient ce qui unit. Nous sommes le peuple de l'Église, nous sommes le peuple qui parle dans des langues nouvelles. Et ça nous différencie du reste des hommes. Parce que c'est un signe, c'est une signature de Dieu sur ceux qui ont cru dans sa parole. Vous comprenez que quand je dis ça, nous sommes loin de parler simplement du petit parler en langue que nous produisons par moment. Appelons-nous cela même une langue, quand des fois ce ne sont que quelques paroles, quelques babutiements. Le signe des langues nouvelles, c'est un signe d'une portée théologique extraordinaire. C'est une signature de Dieu sur l'Église, c'est une signature de Dieu sur notre vie. Et quand nous parlons en langue, nous exprimons que quelque chose de nouveau s'est passé. Dieu a inversé, a renversé les choses. Et nous faisons partie là d'une histoire qui nous dépasse, qui commence dans l'aube de l'humanité et qui se poursuit jusque dans l'éternité. Mais il est important de considérer ceci, j'y reviendrai la semaine prochaine. Nous pouvons tous parler en langue, et l'apôtre Paul nous dit surtout n'empêcher personne de parler en langue, mais malgré tout, il nous dit que dans l'Église, il est préférable de parler dans la langue courante afin que ceux qui sont là soient édifiés. Et dans l'Église, nous pouvons exprimer les langues nouvelles avec parcimonie. Mais dans tous les cas, les langues nouvelles doivent être interprétées. Parce qu'il est nécessaire qu'elle soit intelligible et comprise afin d'édifier. Parce que si nous commençons à parler en langue, tous ensemble, nous allons produire un signe de confusion. Or, Dieu ne veut pas que les langues nouvelles soient un signe de confusion. Il veut qu'elles soient un signe de rassemblement et de distinction. Ce n'est pas du tout pareil. Et c'est pour ça qu'il dit, mais non, vous ne pouvez pas, dans le culte de l'Assemblée, parler tous en langue. Parce que si quelqu'un de l'extérieur arrive au milieu de vous, non pas un chrétien, non pas un frère, une sœur, mais quelqu'un de la rue, il rentre et qu'il vous entend tous parler en langue, ils vont dire, mais je le dis parce que c'est Paul qui l'écrit. Ils sont fous. Parce qu'il n'est pas édifié. Mais comprenez bien, je prenais l'exemple tout à l'heure, que même si nous commençons à parler chacun dans notre langue, que nous louons le Seigneur, que nous prions ensemble comme cela, mais les gens vont se dire, mais c'est bizarre dans cette église. Ils entendent des gens parler en langue, mais ils ne reçoivent rien parce qu'ils ne comprennent pas. Il faut que dans l'église, les langues soient interprétées, sinon elles vont rester obscures. Paul dit, elles vont rester barbares. Et Dieu ne veut pas que les langues soient source de confusion, au contraire, elle veut qu'elles soient source de rassemblement, de distinction, il faut qu'elles soient interprétées. Troisième point, et là c'est un point très important, pour comprendre le pourquoi des langues nouvelles. Les langues nouvelles sont le signe d'un changement de paradigme. Je ne parle pas en langue mais en français. Un paradigme, voilà un point très important. Un paradigme, c'est un modèle cohérent, une vision cohérente du monde. Un modèle. Et maintenant, si je dis que les langues nouvelles sont un signe paradigmatique, c'est pour dire qu'elles annoncent un temps nouveau. C'est pour dire qu'elles annoncent un nouveau modèle de relation entre Dieu et les hommes. Par le signe des langues nouvelles, Dieu dit qu'il change sa façon d'établir une communication, d'avoir des relations avec les hommes. À la Pentecôte, Dieu annonce à son peuple d'Israël, sans les oublier, le salut vient des Juifs. Et à la Pentecôte, ceux qui ont été concernés, c'était des Juifs. Mais il leur annonce ce jour-là qu'il se tourne aussi vers les nations. La preuve, c'est que les Juifs de la diaspora et les prosélytes qui les accompagnaient ont clairement et audiblement, je dirais, entendu au moins 15 langues provenant des pays où ils habitaient. L'un disant « mais il parle latin », l'autre disant « il parle crétois », l'autre disant « il parle arabe ». Ils ont reconnu les messages que ces hommes adressaient, non pas à eux, mais à Dieu, puisqu'ils racontaient les merveilles de Dieu. Et par là, je veux dire que les langues sont devenues le signe de ce changement de relation entre Dieu et les hommes. Jusque-là, à part quelques rares exceptions, l'hébreu était la langue de la révélation divine dans l'Ancien Testament. Mais à partir de maintenant, Dieu se révèle dans toutes les langues. Et les hommes, inspirés par le Saint-Esprit, commençaient à raconter les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Alors, mettez-vous à la place de ces Juifs provenant des pays de la diaspora. Tout d'un coup, à Jérusalem, ils voient ces Galiléens commencer à psalmodier, à chanter les louanges de Dieu, non pas en hébreu, mais dans leur langue païenne. Ça ne se faisait pas. Ça ne s'était jamais fait. On racontait les merveilles de Dieu en hébreu, mais jamais en arabe, jamais en crétois, jamais en latin, jamais en gaulois, jamais en tout ce que vous voulez. Il y avait une exclusivité. L'hébreu était la langue pure, c'était la langue d'Israël, la langue des relations entre Dieu et les hommes. Et voilà que maintenant, ces Juifs de Galilée racontent les merveilles de Dieu dans les langues des païens. Réalisons-nous le choc que ça a pu faire parmi ces gens, ces Juifs qui étaient à Jérusalem. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Les langues nouvelles sont donc une signature divine témoignant de l'instauration d'un nouveau paradigme, d'un nouveau modèle de relation entre Dieu et les hommes, où le Seigneur dit que l'Évangile sera annoncé à toutes les nations. Dans toutes les langues. Et donc le signe des langues nouvelles accompagne ceux qui ont cru et qui vont prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Dans ce sens, l'ancien paradigme qui était centré sur Israël devient comme dépassé. À ce propos, Paul rappelle une prophétie d'Ésaïe, 1 Corinthiens 14, 21, où il dit « C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, le peuple d'Israël. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. » Et pour Israël, pour la partie d'Israël demeurée dans l'incrédulité, dans l'endurcissement, le signe des langues est devenu un signe de jugement. Pour leur dire maintenant, Dieu se tourne aussi vers les gens des nations pour leur apporter la lumière. Mais pour leur dire aussi, voyez-vous maintenant, on peut louer Dieu avec les langues des païens. Mais si Dieu a fait ça, ça me ramène à ce que Paul écrit dans Romains. C'est comme pour exciter la jalousie des Juifs. Comment on peut louer Dieu dans les langues des païens maintenant, non plus simplement en hébreu? Mais ce n'est pas pour les condamner. Oui, exciter leur jalousie afin de les ramener à lui. Mais le problème, Paul l'avait dit, il l'avait prophétisé, enfin Isaïe l'avait prophétisé, ils ne m'écouteront pas même ainsi, avait dit le Seigneur, ce qui est triste. Cette notion de changement de paradigme, de modèle, permet aussi de répondre à une question que vous ne vous posez peut-être pas, mais que je vais vous poser. Pourquoi n'est-il pas fait mention de Jésus parlant en langue? Pourtant, il possédait l'Esprit Saint dans toute sa plénitude. Pourtant, si on considère la liste des dons spirituels mentionnés dans 1 Corinthiens 12, on constate que Jésus les a pratiquement tous exercés. Parole de sagesse, oui, c'est évident. Parole de connaissance, c'est évident. Don de foi, oh, plus d'une fois. Oh, don des guérisons, mais Jésus a tant et tant guéri. Opération des miracles, on se rappelle tous les miracles que le Seigneur a accomplis. Les prophéties, Jésus est le prophète par excellence, il est le prophète de Dieu. Le discernement des esprits, nous le savons. Il a exercé tous les dons spirituels, à l'exception de deux. Le don de la diversité des langues et son corollaire, l'interprétation des langues. Oh, permettez-moi cette parenthèse, c'est pour plaisanter. Mais enfin, ça nous amène à réfléchir. Quand je pense qu'il y en a qui prétendent avoir les 9 dons spirituels, alors que Jésus n'a exercé que 7. Rappelons-nous que Jésus n'a guère franchi les limites des provinces d'Israël. Et son ministère était avant tout tourné vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'était pas encore question de nation, de peuple et de langue. Et lorsque le Seigneur voit cette femme syro-phénicienne d'origine grecque venir vers lui pour demander la guérison de sa fille, la délivrance de sa fille, il va lui parler un peu de sèchement, vous le savez, au sujet des pains des enfants qu'on ne donne pas aux petits chiens. Et elle sera réclamée des miettes. Mais le ministère de Jésus était avant tout centré sur Israël. Ce n'était donc pas le temps de parler des langues nouvelles. Et ce n'est qu'après sa résurrection, juste avant son ascension, au moment où il envoie ses apôtres vers les nations, qu'il mentionne pour la première fois le signe des langues nouvelles. Le signe des langues nouvelles est intimement associé, un, à l'Église, et deux, à la mission que le Seigneur confie à son Église d'annoncer l'Évangile à tous les hommes. Alors, si on dit que le signe des langues a cessé, pour moi, ça veut dire que l'Église a cessé et que la mission d'évangéliser a cessé. Parce que ce signe est intimement lié à ces deux choses. Enfin, je voudrais finir par un dernier point. Là, on a parlé vraiment de choses universelles. Et on va revenir sur l'homme. Ce que je vais dire, à mon sens, est là aussi très important. Le titre est un peu fort, mais pourtant, ça doit être une réalité. Le signe des langues nouvelles, c'est le signe de l'homme ou de la femme spirituelle. Si le Seigneur choisit le don des langues nouvelles comme signe annonciateur d'un nouveau modèle, c'est aussi pour dire que quelque chose d'important s'est produit au niveau de l'homme. Et là, il nous faut nous tourner vers l'enseignement de l'apôtre Jacques, chapitre 3, l'enseignement sur la langue. Car comment parler de langue nouvelle sans parler de l'instrument par lequel ces langues nouvelles sont rendues possibles ? Jacques enseigne que la langue fait office de pilote. Elle est le gouvernail de la vie, n'est-ce pas ? Ça veut dire que son influence sur le cours de la vie est inversement proportionnelle à sa taille. Vous regardez les grands navires et vous voyez leur petit gouvernail. Bon, des fois avec l'homme, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il peut arriver que la langue soit bien pendue. Mais en tout cas, Jacques soulève deux points importants. Première question, qui contrôle notre langue ? Notre langue est-elle bridée ? Il écrit, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme capable de tenir tout son corps en bride. Eh bien, je peux vous dire qu'il faut quelqu'un de solide pour tenir la langue. Plus facile de dompter un cheval sauvage que de dompter la langue d'un homme. Il faut quelqu'un vraiment d'une force toute particulière. Oh, je pense qu'il faut regarder vers le Seigneur. Hein. Mais deuxième question. Qui influe sur la langue pour l'orienter dans telle ou telle direction ? Parce que par elle, nous bénissons nos frères et nos sœurs, nous rendons gloire à Dieu et nous maudissons, nous critiquons. Est-ce une chose normale ? Évidemment pas. Alors, qui dompte la langue d'un homme contrôle sa vie ? Et c'est une question de soumission. Une idée m'est venue, comme ceci. La langue est le témoin décisif de la conversion et de la transformation d'un homme ou d'une femme. Qu'en pensez-vous ? Le témoignage de la langue est plus important que le témoignage du cœur. Qu'en pensez-vous ? C'est pour ça que Paul nous dit dans Romains, oui, c'est en croyant du cœur, mais c'est aussi en confessant la langue. La langue est le témoin décisif de la transformation d'un homme ou d'une femme. Parce que la langue parle selon l'abondance que l'on trouve dans le cœur de l'homme. Alors parler en langue, parler dans des langues nouvelles, c'est avant tout un acte de soumission. Nous avons trouvé l'homme suffisamment fort, le Saint-Esprit, pour tenir notre langue en bride. Il n'y a que lui qui peut. Mais en fait, ce n'est pas un acte un acte d'oppression, c'est un acte d'offrande. Nous offrons notre langue. Je me dis finalement, c'est l'offrande ultime. Oui, on offre son cœur, on offre son corps, et au bout du compte, on offre sa langue. Quand vous avez offert la langue, vous avez tout donné. On donne sa langue au Saint-Esprit. Et prier dans des langues nouvelles, ce n'est pas prier, vous le savez, avec l'intelligence. Ce n'est plus l'intelligence qui fait fonctionner la langue, c'est l'Esprit de Dieu. L'intelligence est stérile, dit l'apôtre Paul, mais c'est l'Esprit qui est en prière et qui s'exprime dans ces langues nouvelles. Maintenant, ce n'est pas parce que quelqu'un parle dans des langues nouvelles que sa langue est sanctifiée. Je le dis avec tristesse, nous le disons avec tristesse. Et nous disons que ceux qui louent le Seigneur dans des langues nouvelles ont une responsabilité encore plus grande que les autres de bien faire attention au témoignage de leur langue. Parce que c'est déjà une chose que d'un moment bénir le frère et maudire l'instant d'après, mais on comprend bien, c'en est encore une autre que de louer le Seigneur dans des langues nouvelles et quelques instants après aller asticoter une personne ou raconter tout ce qu'on a envie de raconter. D'où vient ce décalage que nous observons malheureusement ? C'est un problème de soumission. Leur langue, qui influe sur le cours de la vie, est mal influencée elle-même. Jacques dit que la langue est un feu. Mais quel feu alimente notre langue ? Un feu de gêne ? Il n'y a pas de feu de gêne dans ma vie. Je parle à des frères et sœurs. Mais vous savez, des fois, il suffit d'un lumignon qui fume, d'une braise qui rougeoie et d'un souffle qui passe par là pour... Et ça repart. Oh ! On ouvre les écluses, on ouvre les vannes. Plus rien ne retient. Et alors ? Ça s'embrase, ça s'embrase, ça s'embrase. Et celui qui était capable de louer le Seigneur quelques instants avant, après, pouf, il a suffi d'un petit souffle. Un petit souffle de tentation, un petit souffle de critique, un petit souffle du malin pour venir tout embraser. Ce feu de géhenne. La langue est le monde de l'iniquité. Elle enflamme le cours de la vie étant elle-même enflammée par la géhenne. Ô Seigneur, comme le dit l'apôtre Jean, tu es venu pour nous purifier de toute iniquité. Mais Seigneur, oui, tu as éteint le feu de l'iniquité. Mais Seigneur, tu éteins aussi le lumignon qui fume. En tout cas, ce lumignon, tu l'éteins. Aucune braise ne doit rougeoir dans ma vie. Mais tout ce qui est d'iniquité doit être éteint. Seigneur, c'est d'un autre feu que je veux être. Oh! Rappelez-vous l'Apocalypse, le trône de Dieu, la gloire du Seigneur. Et devant lui, 7 lampes ardentes, témoignage de la plénitude du Saint-Esprit. Ce que je veux dire n'est pas doctrinal, c'est juste un tableau, une image, une pensée. Mais j'imagine qu'au jour de la Pentecôte, c'est comme si le Seigneur avait pris de ce brasier qui brûle devant lui et l'avait envoyé dans la chambre haute. Et là, des langues de feu ont commencé à se poser sur les uns et sur les autres. C'est de ce feu, Seigneur, que je veux être embrasé. C'est de ce feu, Seigneur, que je veux être alimenté jusque dans ma langue. Non pas simplement quand je prie en langue, mais aussi quand je chante, quand je parle, quand je travaille, quand je vis. Seigneur, c'est ce feu-là que je veux dans ma vie. Purifie-moi, Seigneur. Oh, je veux ces langues de feu. Je veux cette langue bridée par la puissance du Saint-Esprit. Je veux cette langue circoncise par la parole de Dieu. Coupe ma langue, Seigneur. Le Seigneur a dit, vaut mieux se couper un bras, une main, vaut mieux s'arracher un œil. Je ne dis pas que le Seigneur aurait dû dire, il sait ce qu'il faut dire en son instant, mais ce matin, je pourrais dire des fois, eh bien, Seigneur, si tu pouvais un peu raboter notre langue. Parce que ce que nous voulons, c'est que notre langue raconte les merveilles de Dieu. C'est qu'elle prophétise selon l'Esprit pour édifier. C'est qu'elle témoigne avec puissance de l'Évangile de Christ. C'est qu'elle bénisse les frères, les sœurs comme nos ennemis. Alors mon frère, ma sœur, toi qui parles dans des langues nouvelles, prends soin d'être alimenté par le bon feu. Ne permets pas au lumignon, à la braise de la géhenne, de demeurer en toi. Que l'œuvre de renouvellement aille au plus profond de ta vie. Est-ce que ta langue est née de nouveau ? Seigneur, fais naître de nouveau notre langue pour raconter de nouvelles choses. Cette semaine, j'ai voulu mettre donc en évidence les raisons qui font que Dieu a choisi que nous parlions dans ces langues nouvelles. C'est vrai, quand on y réfléchit, c'est une drôle de chose. Mais pour comprendre ce sens, ce signe des langues nouvelles, il faut comprendre l'histoire des langues. Parce qu'elles s'inscrivent dans cette grande histoire. Autrefois, les langues étaient un signe de séparation, un signe de confusion. Mais depuis la Pentecôte, elles sont devenues un signe associé à l'Église. Le signe d'un peuple qui se rassemble. Le signe d'un peuple que Dieu distingue d'entre les hommes. C'est aussi un témoin, un signe d'un changement paradigmatique. Dieu s'adresse aux gens des nations. Et témoigne de cela en permettant que les hommes, et premièrement des Juifs, louent le Seigneur dans les langues des gentils. Et les langues nouvelles, c'est aussi le signe de l'homme spirituel, de l'homme qui peut dire, Seigneur, non pas simplement mon cœur, non pas simplement mon corps, mais ma langue aussi, t'appartiennent tout entière. Et ça nous permet donc de mieux comprendre pourquoi nous parlons en langue. Mes frères et sœurs, nous ne parlons pas en langue parce que nous sommes pentecôtistes et que dans un culte, ça peut faire bien de parler en langue ou parce que des fois, bien dans nos temps de prière, on nous a dit qu'il faut parler en langue. Parler en langue, ça a un sens. Ça a une signification. C'est une signature de Dieu. Ce n'est pas un acte anodin. C'est un témoignage. Nous ne parlons pas en langue dans la rue, certes. Mais c'est un signe qui nous accompagne dans notre piété de chaque jour. Mes frères et sœurs, parlez en langue, parlez en langue, parlez en langue abondamment dans votre culte privé. Chantez-vous en langue. Laissez l'Esprit de Dieu vous remplir. Laissez l'Esprit de Dieu vous remplir. Laissez ces cantiques, ces psaumes, ces chants spirituels sortir de votre cœur et louer le Seigneur.